Radio Okapi. Le journal à la présentation Belinda Bosuma.
Élection législative du 15 décembre à Massimanimba. Il n'y aura pas de nouvelle candidature pour ces scrutins. Tous les candidats de 2023 restent en lice. Précision de la CENI ce week-end lors d'un cadre de concertation tenu sur place à Massimanimba. L'intersyndicale des enseignants du ministère de l'Éducation nationale appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour que tous les enseignants soient payés au même moment avant le 31 décembre 2024. Appel lancé ce week-end lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa. Et puis, l'invité de ce matin, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Il a accompagné la première ministre dans sa tournée au Nord Kivu et en Ituri. Le ministre Julien Paluku nous fait la quintessence de cette mission. À tous et à toutes, bonjour. Il n'y aura pas de nouvelle candidature pour les élections législatives du 15 décembre 2024 à Massimanimba dans le Kwilu, malgré l'annulation des suffrages et le dossier de la fraude électorale de certains candidats députés transmis au parquet près la Cour de cassation. Aucune décision judiciaire n'a établi l'heure d'échéance. Du coup, tous les candidats des scrutins de 2023 restent en lice. Cette précision a été donnée lors d'un cadre de concertation tenu par la CENI à Massimanimba. À cette occasion, la centrale électorale sensibilise la population de ce territoire à s'approprier la reprise de ces élections qu'elle qualifie de modèle. Dieudonné Mboukani, conseiller principal du président de la CENI, explique au micro de Irène Bobin.
Il n'y aura pas de nouvelles candidatures parce que nous reprenons les élections avec les mêmes candidats. La Cour qui devait décider de l'invalidation des candidatures suite au mauvais comportement lors du scrutin passé ne s'est pas encore prononcée. Donc pour nous, la CENI, la liste des candidatures demeure celle qui était là lors du dernier scrutin qui s'était passé à Massimanimba. C'est pourquoi nous allons continuer avec les mêmes candidats. Il n'est pas du travail de la CENI d'invalider les candidatures. C'est la Cour qui doit invalider les candidatures. Et celle-ci avait reçu les dossiers complets de tous les candidats qui s'étaient mal comportés lors de ce scrutin-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune décision n'a été prise à leur sujet. Donc nous continuons avec les mêmes candidats aujourd'hui. Nous demandons à la population de s'approprier ces élections. Les élections qui se passent à Massimanimba, ce sont des élections types, des élections modèles que nous allons prendre comme exemple pour la suite des processus électoraux en République démocratique du Congo.
Par ailleurs, l'administrateur de Massimanimba met en garde les médias locaux contre tout message de haine durant la période électorale en cours dans cette province, cette partie du Kwilu. Dans une interview samedi, Emery Kanguma menace de fermer tout média qui va diffuser un message de haine incitant à la violence. D'après lui, l'autopsie faite sur l'annulation des élections de décembre dernier à Massimanimba a révélé que les médias ont joué un rôle important dans les troubles enregistrés lors de ces scrutins. Écoutant Emery Kanguma, administrateur du territoire de Massimanimba, au micro de Irène Boma.
Par rapport aux erreurs passées, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas croiser les bras. Quand la CENI est arrivée, on a demandé d'abord de faire l'autopsie pourquoi les élections étaient annulées. Entre autres, il y avait la presse qui incitait la population. On les a interdits de diffuser les messages de haine et de la violence pour que les élections soient apaisées et crédibles. Oui, nous nous sommes entendus avec les membres de sécurité. Un journaliste qui va inciter la population à la haine ou bien au vandalisme sera arrêté et la radio sera fermée. Ça, c'est une instruction ferme. Moi, je vous confirme que la presse a joué un rôle qui a fait que les élections soient vandalisées. Par exemple, quand la presse dit en patois, en Kikongo, donc, oh, il n'y a pas de machines en forêt, mais la presse diffusait des mauvais messages. C'est en ce moment, nous sommes dit non. Maintenant, voyons tous dans la même direction. Ne donnez plus de messages incitatifs. Soyons unis et objectifs d'avoir une élection apaisée, transparente.
Entre-temps, dans la province de Lomami, plus de 30 journalistes de la ville de Mweneditu, des territoires de Luilu et Kamiji, ont pris part samedi à un atelier axé sur le rôle des médias durant la période post-électorale. Ces travaux d'un jour ont été organisés par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section Mweneditu. D'après Alain Kabongo, secrétaire exécutif d'OLPA, le but est de permettre aux journalistes de s'auto-évaluer et de les pousser à améliorer le travail pendant cette période post-électorale. Vanessa Kongolo nous en dit plus.
Au cours de cet atelier, trois thématiques ont été exposées. C'est notamment l'état des lieux de l'accompagnement de la presse locale par l'autorité urbaine, défis et pistes de solutions, exposé par Sébastien Mutombo, chef du bureau urbain de la communication et de médias. Ali Boukassakabambi, vice-président et président intérimaire de l'INPC, sous-section de Mweneditu, a, dans le deuxième exposé, abordé le point sur la liberté de la presse à Mweneditu et ses environs. Espoir et réalité après le 10e congrès de la presse tenu à Kinshasa. Maître Huberto Boukassa, coordonnateur adjoint et porte-parole de la nouvelle société civile congolaise Coordination de l'OMAMI, a fait une analyse critique de la contribution de médias locaux au processus électoral et leur impact sur la société civile de Mweneditu. Invité à ces travaux, Gérard Chibanda Kabwe, maire de la ville de Mweneditu, a exhorté les participants à s'auto-évaluer afin de prester d'une manière constructive pour obtenir une presse réellement prospère et légaliste. Signalons que les journalistes ont formulé quelques recommandations pour améliorer leur travail pendant cette période post-électorale. OLPA leur a remis aussi les brevets de participation.
Parlant des journalistes, notez que notre consoeur Jemima Diane Mogo, journaliste à la RTNC, est décédée hier à l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Présentatrice des journaux télévisés sur la chaîne nationale, elle a été attaquée par des délinquants il y a quelques jours sur l'avenue des Libérations ex 24 novembre, non loin du camp Koukolo, en quête d'un moyen de transport pour rejoindre son domicile. C'était la nuit alors qu'elle venait de finir son journal. Madame Sylvie Elengue, DG de la RTNC, dit regretter cette perte et pense qu'au-delà de la logistique mise en place par la direction de la RTNC, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Madame Sylvie Elengue en parle. Elle est jointe par Jacques-Yves Molima.
Je saisis l'opportunité que vous m'offrez sur vos antennes pour présenter nos sincères condoléances à la famille de Jemima Moko Mambasa, ainsi qu'à tous ses proches, ses amis et collègues. C'est une grosse perte pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise de voir qu'un de ses agents, une personne aussi dévouée au travail, de perdre sa vie à la suite d'une agression non loin du camp Kokolo. La question de la sécurité de nos agents est une vraie préoccupation pour nous. Nous avons essayé de réfléchir en interne avec les moyens disponibles. Nous avons mis ce dispositif en place pour permettre à ce que les agents puissent être ramenés chez eux en toute quiétude. Au-delà de ce que nous, dirigeants de la chaîne, pouvons assurer comme logistique, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Par exemple, la réhabilitation de l'éclairage public pour dissuader la constitution des foyers d'insécurité, ça et là, sur le long de ces grandes artères. Ça, c'est peut-être des souhaits que nous pouvons émettre. Ça permettra à ce que les gens puissent se vaquer à leurs occupations librement et en toute sécurité.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour régulariser la paie des enseignants. Cette structure a lancé cet appel vendredi dernier lors de son assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa. Des précisions avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de cette rencontre de plus de 3 heures, l'intersyndicale des enseignants du secteur de l'éducation a évalué les niveaux d'exécution de la paie des enseignants au 4e trimestre de l'année 2024. Elle a cependant noté des risques imminents du non-paiement des 54 entités en décembre prochain. C'est dans ce cadre que le président de cette organisation syndicale a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions avec l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD chargées de la paie des enseignants dans plusieurs coins du pays. Godefroy Matondo.
Dans le souci de préserver la paix sociale dont notre ministère a grandement besoin, l'intersyndicale demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions avec l'IFOD pour que tous les enseignants soient payés au même moment avant le 31 décembre 2024. de solder les 50 000 francs congolais restants conformément aux récentes résolutions de Bibwa.
Pour ces syndicalistes, les entités bénéficiaires de la paye rotative devront chaque fois attendre un mois de plus pour renouer avec la paye 10 mois. L'intersyndicale des enseignants a condamné cette pratique qui non seulement perdure sans solution durable, mais risque de créer des remous sociaux dans les 54 entités qui posent problème.
Et puis, le budget de la province du Haut-Lomami s'élève à plus de 281 milliards de francs congolais. Il a été défendu le jeudi dernier par le gouverneur Banzamulume Marmont à l'Assemblée provinciale. Comparé à celui de l'année passée, il se dégage une légère augmentation, indique le ministre provincial du budget. Thierry Caleb Lumbala donne ici d'autres détails y afférents et surtout les sources pour réunir ce montant dans une province qui tarde à décoller. Il a été joint par Jean Gando.
Le projet de budget se chiffre à 281 milliards 600. Nous avons les recettes internes qu'il nous faudra beaucoup plus mobiliser pour que nous puissions atteindre les assignations que nous nous sommes fixées. Et les recettes internes avec la part qui doit provenir du gouvernement central, il nous faudra des démarches pour que le gouvernement central puisse se débloquer dans les délais et cela pourra permettre à ce que notre budget que nous avons arrêté à 281 milliards soit exécuté normalement. Nous allons fournir aussi un effort pour ce qui concerne les recettes spécifiques, ça veut dire les recettes locales constituées des impôts et taxes d'intérêt commun, les impôts et taxes spécifiques à la province. Et quand vous prenez cette rubrique-là et vous y ajoutez les recettes en capital, des recettes exceptionnelles, nous aurons la chance de réunir les moyens et exécuter les travaux prévus dans notre programme d'action du gouvernement. Comparativement au budget 2024, c'est une légère augmentation parce que celui de 2024 était chiffré à 273 milliards. Son taux d'exécution a nagé autour de 20%.
Direction le Congo central, précisément dans le territoire de Mbanzangungu. Ici, plus de 1000 hectares de cultures sont détruites par les inondations. Il s'agit de manioc, maïs, arachides, bananiers et autres cultures maraîchères comme la tomate, aubergine et la ciboulette, produits dans les vallées des rivières Nkokozi et Mvoisi. Cette catastrophe ayant frappé les villages issus des trois groupements du secteur de Boko est causée par une forte pluie qui s'est abattue sur cette contrée dans la nuit du 21 au 22 novembre en cours. Victor Nzuzimbembe, un des acteurs de développement de Mbanzangungu, qui livre l'information, indique que ces inondations appauvrissent les paysans et créent une augmentation du prix des produits agricoles sur le marché. Il a dit à Nana Plurich Mambou.
C'est près de 30 villages dans cette situation et des milliers d'hectares sous eau. C'est déplorable, comme je disais, parce que l'année passée, la population a connu à 4 reprises ce genre d'inondation. Donc déjà, c'est dans une situation de famine qu'elle se trouve. Voilà que juste au début de cette année agricole, la saison A, il y a encore des inondations dans ce sens. Avec la résilience, les jeunes ont fait des cultures maraîchères. Maintenant, on parle de la tomate qui augmente des prix. Une centaine, je ne sais pas, 80 000 à la caisse de 30 kilos. C'est le moment choisi par la nature pour emporter toutes les cultures. Alors qu'il y a un mois, il vendait la tomate, la même caisse qui est à 100 ou 80. Il la vendait jusqu'à 15 000 francs. Maintenant que les jeunes croyaient qu'ils allaient gagner de l'argent, voilà, tout est parti. Le manioc, ça n'en parle même pas. Le maïs, l'arachide, tout est sous eau. Il faut des aménagements hydro-agricoles comme à l'époque où il y avait des digues, où il y avait des barrages dans les milieux. Et tout ça s'est bouché, tout ça s'est détruit.
Autre nouvelle, valoriser la mode congolaise, c'est le but du défilé de mode organisé samedi à Kinshasa à l'occasion de DRC Fashion Week. Le thème choisi pour cette année, Wolo, traduisé or en français, qui symbolise la richesse de la RDC. Plusieurs personnalités congolaises, dont des artistes musiciens et comédiens, ont répondu présents à cette activité culturelle. Étienne Lissoumbou y a pris part. Voici son reportage.
Habillés tous en noir doré, les mannequins arrivent sur les tapis rouges pour présenter les différents styles de vêtements à l'assistance dans la salle. Chadrak Lutumba, chargé de communication des DRC Fashion Week, explique l'objectif de cette soirée.
Cet événement a pour but vraiment de ressortir la créativité de jeunes Congolais. On est déjà créatifs à la base. On n'a pas de plateforme pour s'exprimer parce que les plateformes dans la mode est très sélective. Mais cette initiative, qui est une initiative jeune, a pour but de mettre en valeur tous les jeunes créateurs, tous les jeunes talentueux qui n'ont pas cette facilité d'entrer dans le secteur de la mode qui est très sélecte.
Le mannequinat est un art naturel. Unicia aussi, hein, mannequin professionnel, encourage le jeune et croit en eux pour aller de l'avant.
Pour ceux qui ont toujours voulu se lancer dans la mode, allez-y, foncez. Il faut toujours croire en son rêve, ça peut aller jusqu'aux étoiles.
L'Afrique a fait des avancées significatives aujourd'hui, souligne Lydia Sarah L.O., une invitée à la cérémonie.
Je suis très heureuse aussi qu'on parle de la RDC pour des raisons heureuses. C'est un changement qui est vraiment bienvenu. Et en ce qui concerne l'évolution de la mode, depuis 10 ans, on commence à voir en Afrique des fashion week qui se créent. On a celle de Lagos, on a celle de Dakar. Et il est plus que temps que la RDC prenne sa pleine place dans la mode africaine.
Lancée en 2020, la DRC Fashion Week a né cette année à sa 4e édition.
Actualité internationale.
COP 29, un accord trouvé dans la douleur et un résultat pas à la hauteur des enjeux. Au moins 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035 pour les prêts et dons aux pays en développement. Les pays développés se sont engagés ainsi hier à Bakou à financer davantage les pays pauvres menacés par le changement climatique. C'était au terme d'une conférence de l'ONU chaotique en Azerbaïdjan dont de nombreux acteurs repartent déçus et en colère.
L'invité.
Il s'agit du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a fait partie de la délégation gouvernementale qui accompagnait la première ministre Judith Suminwa dans sa tournée au Nord Kivu et en Ituri. Le ministre fait la quintessence de cette mission qui consiste en l'évaluation de la situation sécuritaire et de l'état de siège dans les deux provinces. Julien Paluku est avec Bernard Denyangi.
Monsieur le ministre Julien Paluku Kaongia, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut d'abord attendre cette mission?
Oui, c'est une mission que Son Excellence Madame la Première Ministre conduit sur l'institution du Président de la République, parce que lors du Conseil des Ministres, il a insisté que soit évaluée en fait son ordonnance qui permettait à ce qu'on allège certaines mesures de l'état de siège. Et donc, il voulait se rassurer que les conditions sont restées les mêmes ou qu'elles ont changé pour voir si le contenu de l'ordonnance peut maintenant subir un débit d'exécution. Il s'agissait de réhabiliter l'autorité civile là où il le fallait, notamment au niveau des bourgmestres des communes, au niveau des maires des villes, au niveau des administrateurs des territoires, étant donné qu'avec l'état de siège, il s'observait une sorte de rupture de ces mariages qu'on appelle toujours civilo-militaires. Et donc, pour le président de la République, dans la perspective prochaine de la levée de l'état de siège, il faut quand même que l'on commence par des étapes. Et donc, la première ministre, comme elle est la nouvelle chef du gouvernement, c'est sa première évaluation. Il était normal qu'elle vienne voir ici à Goma et à Bounia les données qui ont changé pour permettre de proposer au président de la République les dernières mesures par rapport à l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri.
Il y a un terme qui revient toujours. J'ai même entendu la première ministre revenir sur ça, des mesures d'atténuation. Ça veut dire quoi exactement?
Oui, nous avons adopté en conseil des ministres deux types de mesures. La première, l'assouplissement de l'état de siège, c'est ce qu'on appelle mesure d'atténuation. C'est-à-dire, les libertés étaient bloquées, les administrations civiles étaient bloquées, et donc on va réhabiliter certaines mesures en levant certaines restrictions qui étaient contenues dans l'ordonnance instituant l'état de siège. Le deuxième type de mesure concerne en fait les allègements fiscaux, parafiscaux et douaniers. Nous avons adopté à Conseil des ministres un projet de décret que d'ailleurs la Première ministre vient de signer au départ de Kinshasa qui permet aux opérateurs économiques de souffler un peu. C'est-à-dire on va suspendre tous les contrôles, on va suspendre la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits de grande consommation pour permettre à ce que les prix des produits puissent baisser sur les marchés. Tout cela pendant une année, permettre en fait la relance économique de cette partie qui était sous état de siège. Le décret était envoyé au journal officiel pour être publié, parce que ce n'est que quand c'est publié au journal officiel que c'est opposable à tous, et que les opérateurs économiques et la population sentent vraiment l'impact des mesures que le gouvernement vient de prendre pour alléger la fiscalité dans cette partie de la République, particulièrement dans les deux provinces sous état de siège qui ont longtemps souffert.
Donc, quelque part, le gouvernement au niveau de Kinshasa et aussi à certains acteurs au niveau de la province, vous ne parlez pas encore le même langage, puisque ici, il y a une tendance de vouloir que l'état de siège soit levé maintenant. Est-ce qu'il n'y aurait pas, selon vous, certaines résistances par rapport à ces plans de mesures d'atténuation?
Non, moi je ne peux pas entrer dans les secrets de la Première ministre et du Président de la République. Nous sommes venus recueillir les éléments, on a reçu l'Assemblée provinciale, on a reçu la société civile dans toute sa diversité, on a reçu même jusqu'aux conseillers communaux, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, les conseils provinciale des jeunes, l'association des mamans. Donc toutes les couches se sont exprimées. Je réserve la primaire au président de la République qui va recevoir les rapports de tout ce qu'on a proposé pour qu'il voie maintenant quel est le type de décision qu'il va prendre au regard de ce que nous allons lui rendre, parce que nous allons lui rendre fidèlement compte de ce que toutes les couches ont dû proposer par rapport à la question de l'état de siège.
Par rapport effectivement à votre portefeuille, il y a quelque chose que vous attendez aussi comme ministre du commerce extérieur par rapport à cette mission?
Mais oui, parce que lorsqu'on va suspendre un certain nombre de taxes, ça va renforcer la fluidité du commerce au niveau des frontières. Parce que vous vous rappelez, dans la frontière comme celle de Kassindi ou de la petite, de la grande barrière, il s'observait un climat malsain où on disait que il y a les tarifs douaniers qui est monté en flèche. Mais avec ce décret-là, qui essaie un peu d'atténuer, qui essaie un peu de réduire un certain nombre de taxes, ça va vraiment permettre aux opérateurs économiques de souffler. Et donc, l'activité commerciale va être intense. Et c'est la population qui va en bénéficier.
Excellence Julien Palou Kaunga, merci.
C'est moi qui vous remercie et j'en profite pour saluer toute la population et tous les auditeurs de la radio Okapi.
Notez que cette interview a été réalisée à l'étape de Goma. Par ici prend fin ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj à la mise en onde Billy Landry Beto. Merci de nous avoir suivis.